Qu'est-ce qui est signe de la présence de Dieu dans nos vies? Il y a longtemps, j'ai accompagné une paroissienne à Beauvais qui avait de gros problèmes cardiaques. Elle se retrouvait dans le coma à l'hôpital en soins intensifs. On ne savait pas si elle allait le vivre. Son mari allait la voir tous les jours et je le soutenais comme je pouvais. Il n'était pas croyant et toujours pessimiste. Mais il avait admis que si elle s'en sortait, on pourrait appeler ça un miracle. Toute la paroisse la portait dans la prière. Cette dame s'est remise à vivre, grâce à la médecine, bien sûr, et pour moi aussi, grâce à Dieu. Elle le prenait comme ça aussi, mais rien n'a changé pour son mari. En dehors de la reconnaissance, bien sûr, qu'il a eue à ce qu'elle soit de nouveau à ses côtés. Mais j'ai compris à ce moment-là combien l'être humain résiste à voir, à reconnaître des signes de la présence de Dieu dans la vie humaine et terrestre. Regardons dans notre texte. Jésus vient de faire un miracle sous les yeux des foules. Et qu'est-ce qu'on lui dit ? Certains s'émerveillent et d'autres se posent des questions. Ils se disent « c'est louche, c'est pas normal, ça c'est sûr que c'est pas normal, ton miracle il doit venir de quelque chose de mauvais ». Le texte nous dit « c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il chasse les démons », disent les personnes. Et puis comme si rendre la parole à un muet ne suffisait pas, on lui demande un signe miraculeux, un signe qui vienne du ciel. Et on rajoute pour le mettre à l'épreuve quand même. Il réclame un signe qui vienne de Dieu. Quel signe pourrait-il reconnaître comme venant de Dieu si même rendre la parole à un muet ne suffit pas pour reconnaître que cela vient de Dieu? Peut-on codifier les signes qui viennent de Dieu, les mettre dans des catégories, ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu, ça je pourrais le croire, ça je pourrais pas le croire? Cette histoire se retrouve aussi dans l'évangile de Matthieu. Et là, ceux qui demandent un signe, ce n'est pas la foule, ce sont des personnes religieuses. Il y a les scribes, c'est-à-dire les spécialistes de la loi religieuse. Il y a les pharisiens, les spécialistes de la bonne observation des commandements. Et les sadducéens, ceux qui s'occupent du bon fonctionnement du temple à Jérusalem. Ces gens-là sont des gens qui savent. Ils savent mieux que les autres comment interpréter la loi de Moïse, comment faire des sacrifices à Dieu, comment être pur. Ils connaissent mieux que les autres le monde de Dieu. On connaît les risques de déviance et d'excès que cela comporte. Se servir de la spiritualité, de la religion pour garder les gens sous son pouvoir, cela s'est vu autrefois, comme aujourd'hui bien sûr. Ça continue. Et dans tout son enseignement, Jésus montre le danger de posséder un savoir sur Dieu. On risque de tenir pour une vérité définitive ce que l'on sait. On ne fait aucune place au doute, alors que le doute fait partie de la foi. On ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas le saisir. On ne peut que discerner les traces qu'il laisse autour de nous et en nous. Dans Luc, ce sont les foules qui sont en face de Jésus et qui lui tendent un piège. Alors Jésus renvoie au signe de Jonas. Cette génération est mauvaise, elle demande un signe et il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe de Jonas. Quand on lit ça, il faut voir évidemment le contexte. On est à peu près au milieu de l'évangile. Il a déjà fait énormément de signes. Certains ont reconnu que c'était des signes, des miracles. Dans l'évangile de Jean, les miracles sont appelés des signes. Jean n'appelle pas les miracles des miracles, il appelle ça des signes. C'est-à-dire qu'un signe est quelque chose qui renvoie à autre chose. Par exemple, dans la vie de tous les jours, les signes que je vois quand je conduis ma voiture sont des signes qui renvoient au code de la route, que je suis censée respecter. Quand je suis malade eh bien, je vais avoir des signes de ma maladie qui vont me dire de quelle maladie je souffre. Et puis, quand je vois des nuages noirs au-dessus de ma tête, comme ce matin dans la nuit, eh bien, c'est les signes qu'il va pleuvoir. Oui, les signes renvoient à quelque chose ou à quelqu'un. Par exemple, dans l'Ancien Testament, les signes bibliques renvoient à l'action de Dieu. Nous pouvons penser à l'arc-en-ciel, à la circoncision, au don de la loi. Ce sont les signes de la première alliance. Et dans l'évangile de Jean, l'auteur insiste pour dire que ce n'est pas le miracle en soi qui est important, mais celui à qui il renvoie, c'est-à-dire la personne de Jésus. Le vrai miracle, en fait, c'est le miracle de la foi, de la confiance en Dieu. Mais pour mettre sa confiance, eh bien, il faut faire un saut. Il faut oser. Certains ne veulent pas le croire, alors Jésus les renvoie à l'histoire de Jonas. Pourtant, on a vu que ce n'était pas un prophète exemplaire. On l'appelle, et comme certains enfants, eh ben, il va à l'opposé. Non, 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 je ne veux pas que tu m'attrapes. Il s'enfuit du regard de Dieu, du moins il essaye. Vous avez vu, il a été dans les profondeurs du bateau. Mais Dieu a besoin de lui. Alors il le cherche, il va le chercher. Il a besoin qu'il accomplisse sa mission. Qu'est-ce que Jésus veut mettre en évidence dans cette histoire de Jonas? Qu'est-ce que c'est ce signe dont il parle? Alors il faut savoir que cette histoire est tellement riche de sens que nos deux évangiles, Matthieu et Luc, vont mettre le projecteur, en fait, l'accent sur un signe différent. Dans Matthieu, Jésus dit « Car tout comme Jonas fut dans le ventre du poisson, du gros poisson, 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. » Du coup, le fait que Jonas soit resté dans son poisson 3 jours et 3 nuits, cela renvoie évidemment à la mort de Jésus, 3 jours et 3 nuits. Alors bien sûr, on sait que Jésus, il ne va pas y rester. Mais ce qui est frappant dans ce texte, et on l'a vu dans notre partage biblique, c'est que c'est sur la mort de Jésus que l'insistance est faite. Il est mort et il est resté 3 jours et 3 nuits dans la mort. Et dans Matthieu, souvenons-nous, il s'adresse à des responsables religieux qui attendent le Messie, qui attendent cet homme qui va délivrer Israël. Et il n'était pas pensable pour eux dans ce qu'ils savent, dans ce qu'ils ont imaginé, échafaudé comme théologie à l'époque, qu'un Messie puisse mourir. C'était juste pas pensable. Et dans l'évangile de Luc, le signe de Jonas, en fait, c'est la conversion. Quand vous relirez le premier chapitre de ce livre de Jonas, on a entendu des passages de ce livre, mais les marins, en fait, se convertissent. Ils vont offrir des sacrifices à Dieu. Ils se tournent vers Dieu. C'est ça, se convertir, se tourner vers. Et bien sûr, ils vont jeter Jonas à la mer. Ils ne sont pas très confortables avec ça. Mais ils se convertissent. C'est les premiers dans l'histoire de Jonas. Et ensuite, eh bien, il y a les gens de Ninive, les habitants de Ninive, qui vont se convertir extrêmement rapidement. Vous avez entendu que c'est une grande ville. Il faut 3 jours pour en faire le tour. Et dès le premier jour, eh bien, les habitants entendent qu'ils ont été violents, qu'ils sont sur des mauvais chemins. Et au bout d'une journée, eh bien, ils reviennent vers Dieu. Je me suis dit, c'est quand même le rêve de tout prédicateur, ça. Qu'on ait une prédication efficace et voilà. Mais je me suis dit aussi, si Jésus parle comme ça, c'est peut-être que, enfin, on sait qu'il n'a pas réussi à convertir tout le monde, et il doit en être triste de cela. Tout le monde ne va pas se convertir à sa parole et à sa présence. Jésus ajoute pourtant, ici il y a plus que Jonas. Jésus est plus qu'un prophète, parce qu'il est le précurseur d'une puissance de vie promise à tous. Jésus dit dans l'évangile de Luc, de même que Jonas fut un signe pour les gens de Ninive, de même aussi le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. » Jésus se nomme lui-même en parlant, alors c'est pas fils de l'homme, c'est fils de l'humain. Il ne se nomme jamais fils de Dieu, Jésus. Il se fait toujours proche de notre humanité. Et là, ce n'est plus seulement une parole ou un miracle qui est donné comme signe venant de Dieu, mais un homme, dans toute sa vie, dans son mouvement vers les autres, dans son amour qui guérit, qui libère, jusque dans sa souffrance et sa mort. Jésus est signe que la souffrance et la mort n'ont pas le dernier mot. L'existence de Jésus fait signe à l'humanité depuis plus de 2000 ans. Jésus est un signe pour toutes les générations dans le monde entier, sans limite de temps ni d'espace. Aujourd'hui, continue de nous transmettre la vie nouvelle que Dieu lui a donnée. Je reviens alors à nous et à ma première question. Qu'est-ce qui est signe de la présence de Dieu dans nos vies ? Sommes-nous comme les foules de Luc à remettre en cause les signes que nous pourrions reconnaître ? Avons-nous accepté qu'il y a des brèches en nous pour nous ouvrir à ce que nous n'osons pas croire ? Sommes-nous résistants à croire ce qui sort du raisonnable ? On est quand même très cartésien, mais Dieu n'est pas raisonnable. Sommes-nous ouverts pour recevoir l'incroyable, même dans les plus petites choses ? Cela demande de regarder le monde autrement qu'avec notre raison. Cela nous demande d'être dans une écoute plus large, d'essayer de comprendre avec plus de perspective, aussi bien avec notre intelligence qu'avec nos sens, notre intuition, notre conscience. Et c'est souvent grâce à une relecture dans nos vies de ce qui nous est arrivé que nous pouvons oser dire « Tiens, tel événement est arrivé juste au bon moment. D'où cela vient-il ? Était-ce une bonne chose ? Quels fruits, quelles conséquences cela a-t-il porté ?» Parfois, quand on se lance dans certaines initiatives, les portes s'ouvrent facilement, les choses s'enchaînent avec fluidité et font du bien. Quand on montre du courage pour tisser des liens, pour oser entrer en contact, pour mettre en pratique cet amour qui nous est demandé, la joie est bien souvent au rendez-vous. Alors tout cela, bien sûr, il y en a qui peuvent l'attribuer à eux-mêmes, au hasard, à l'alignement des planètes. J'ai souvent déjà parlé du hasard ici. Et vous savez que pour moi, c'est la forme que Dieu prend pour passer incognito. Mais regardez toutes les coïncidences qui arrivent, parfois dans une même journée. Il faut savoir que, voilà, c'est notre choix, c'est notre liberté. Mais en ne voulant pas aller reconnaître toutes ces coïncidences, toutes ces bonnes choses qui viennent de Dieu, eh bien, on se prive nous-mêmes. On se prive simplement d'être en relation directe avec lui. On se prive de lui exprimer notre joie, une joie qui monte en nous parce que ce qui arrive n'aurait pas pu être imaginé, organisé par un être humain. Oui, louer Dieu rend heureux et approfondit notre joie. Qu'est-ce qu'il me faut pour reconnaître les signes que Dieu nous envoie ? Alors nous avons des signes qui sont relayés par l'Église, je dirais qui sont la base, comme la célébration du culte, la transmission de la Bible et son interprétation, le baptême et la Sainte Cène. Et puis on peut reconnaître aussi la main du Créateur dans la beauté du monde, dans la créativité et la diversité qu'on trouve non seulement dans la nature, mais aussi dans tous les êtres humains. Et puis il y a toutes les mises en lien que l'on peut faire pour comprendre qu'un signe prend son sens dans la vie vivifiante qu'il produit. C'est comme ça qu'on peut reconnaître un signe qui vient de Dieu. Alors, peut-être qu'on ne va pas reconnaître les signes de Dieu tous les jours, mais on peut s'entraîner tous les jours. Allez voir, allez discerner. Parfois, il faut accepter le manque, le questionnement, accepter de ne pas savoir, pour que l'espace en nous s'agrandisse, pour accueillir le Seigneur qui vient nous rencontrer. Oui, ouvrons-nous aux signes que Dieu nous donne pour nous dire « je t'aime ». Alors la vie deviendra plus vivante et nous pourrons connaître ce sentiment d'éternité donné ici et maintenant. Amen.